Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 2 mars 2021. Nous sommes à quelques jours de Pourim, puisque Pourim, c'était il y a quelques heures même. Nous venons sortir de Pourim ici à Jérusalem avant-hier, dimanche. 28 février 2021, et je me permettrai de revenir sur non seulement le couple Esther et Mordechai, mais aussi et peut-être même surtout sur ce couple Assuérus, Ahasvéros et Esther. Il ne faut pas oublier que de ce couple sort Darius, Darius II, qui lui va pousser Ezra et Néhémia à sortir de Perse pour reconstruire à Jérusalem le temple, le deuxième temple, où réside bien entendu HaKadosh Baruch Hu. D'abord, dans ce couple Esther et Mordechai, il y a une complémentarité extrême, absolue, des fonctions. La fonction féminine est intégrée dans Mordechai et la fonction féminine, masculine, est intégrée dans Esther. Ce qui est très, très, très intéressant de comprendre, c'est que et on l'a dit de nombreuses fois cela. Pour qu'Esther soit véritablement Malka, devienne véritablement reine, puisque c'est la Shrina qui réside dans la Malchoute, qui réside dans la royauté divine, qui réside dans la dans le Beth-Amikdash, eh bien, Esther doit faire l'union à l'intérieur d'elle-même des contraires. Elle doit faire, comme je le dis de nombreuses fois, le Aleph, l'unité en elle. C'est-à-dire, Esther est une force qui vient évidemment, on l'a déjà dit encore une fois, de Bereshit, qui vient de Chava avant la faute, et qui va pousser, si vous voulez, son mari à, et à travers elle, son, le peuple d'Israël, à réagir. La force d'Esther est une force, on l'a dit, d'inversion des contraires. Une force de n'afor où. Et dans ce couple, Ahasvéros, Esther, Assuérus, Esther, il y a de très très nombreux secrets que les Rachamim ont révélés peu à peu. Évidemment, la Megillah est complètement codée, complètement cachée. On sait que Esther, c'est évidemment la Shrina qui est cachée derrière toute chose, toute situation historique. Et que, en fait, Esther va non seulement sauver le peuple d'Israël, autant d'Ahasvéros, roi de Perse, mais surtout, elle va sauver à la fin des temps l'humanité tout entière, l'humanité non-juive tout entière. Comment ? Vous savez que les maîtres du Sod ont expliqué, les maîtres des secrets ont expliqué que Adam Arishon avait eu avant Chava une femme qui n'est pas explicitée dans la Torah, dans Bereshit. Mais il a eu une femme pour, j'allais dire, pour le plaisir, pour s'amuser. Et le Rav Dinovitz, eh bien, cite très souvent cette situation où, véritablement, Adam, qui était qui baignait dans le plaisir et dans le désir avec la première femme, voulait en fait se décrocher, se séparer de cette femme et a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer sa femme. Sa femme. Chava est une femme qui est épouse véritable de Adam et cette femme-là va véritablement faire le tikkun de son mari. C'est-à-dire que véritablement, elle va porter dans l'intériorité de son mari, dans l'intériorité de son mari, n'est-ce pas, les forces d'action, les forces de réalisation. Et c'est pour ça qu'il y a des midrashim extraordinaires qui disent qu'en fait, le péché d'Adam, c'est que il s'est endormi, il était quelque part, disons, il voulait se séparer presque de l'action de sa femme Chava, parce que tout simplement, Chava le forçait par son côté masculin à réaliser le côté féminin de Adam. Et c'est ce qui s'est passé dans le couple Esther et Ahasvéros. Ahasvéros était un individu, évidemment, d'abord c'était évidemment un roi, un individu extrêmement impur. Il allait de fille en fille, il avait le droit de cuissage, il envoyait son armée prendre les plus belles filles du royaume pour les mettre avec lui. Et Ahasvéros avait compris, lorsqu'il a vu Esther, que Esther était capable de faire le tikkun, la réparation du monde, la réparation de l'universel. Que Esther était en fait Chava, qui était par Sarah, évidemment, Imanou, était revenue dans notre monde. Mais elle était revenue dans notre monde pour faire la réparation de l'universel. Il avait compris que, véritablement, Esther avait une mission, c'était de le faire transmuter, de faire en lui la réparation d'Adam Harishon. De faire en sorte que Adam Harishon devienne vraiment le mari de Chava. Et c'est donc la réparation du premier couple. Mais pour cela, Esther avait absolument besoin de son couple avec Mordechai, parce que Israël, Mordechai étant évidemment Yehudi, était descendant de la tribu de Binyamin, Mordechai était à participer évidemment à Jérusalem, à la prière au temple. Il était véritablement un grand, un très très grand de la communauté juive qui a été déportée par Nabucodonosor. Et Mordechai était donc non seulement un chef de communauté, mais il était écouté à Jérusalem par ses pères. Et donc Mordechai avait ce côté, comme on l'a dit, extrêmement fort, extrêmement, disons, combattant. C'était un chef de guerre. Mordechai était un combattant pour Dieu, bien entendu, pour Dieu. Et donc, il a poussé, c'est lui, par son côté, si vous voulez, féminin, il a poussé Esther à rentrer dans l'intériorité d'Ahasvéros, de rentrer dans la pièce où il était, notamment à la cour intérieure. Vous voyez que dit la Megillah, la cour intérieure, c'est-à-dire, elle avait peur, évidemment, elle risquait sa vie. Puisqu'il y avait un décret du roi que personne ne pouvait rentrer sans le sceptre royal, dans les intimités de la chambre d'Ahasvéros, d'Assurus. Donc elle risquait sa vie. Mais qui c'est qui l'a poussé, en fait? C'est Mordechai. Et comment il a poussé? Il a poussé par son côté masculin, fort, puissant, descendant de Binyamin, au niveau des forces, bien entendu, n'est-ce pas? Et il va par son côté masculin qui rejoint son côté féminin, eh bien Mordechai va pousser Esther à ne pas douter et à foncer. Esther est devenue une véritable résistante. Elle a, si vous voulez, au début, disons, douté un peu. Elle dit non, pas aujourd'hui, demain. Et Esther, dans la Megillah, et Mordechai lui dit non, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Allez, vas-y, fonce. Cette force de Mordechai, il ne peut être possible que s'il y a la symbiose absolue entre Esther et Mordechai. Et c'est tout le travail d'Israël dans l'histoire. Le travail d'Israël dans l'histoire est de d'abord atteindre sa propre unité. Pour que l'unité d'Adam Harishon avec Rava, universelle, puisse se faire enfin. Et c'est tout, encore une fois, le plan de la dynamique voulue par Dieu, mais de l'histoire. Et ce qui est très intéressant et très, très important de comprendre, c'est qu'en fin de compte, la réparation qu'a fait Ahasvérosh, puisque Ahasvérosh, au début, il voulait, avec Aman, détruire entièrement en un jour le peuple juif, hommes, femmes et enfants, de manière à ce qu'on ne parle plus de ce problème-là, c'était devenu un nazi, et un véritable haineux d'Israël, les forces d'Amalek sont rentrées en lui, et d'un autre côté, Esther a réussi à faire passer ses forces qui étaient haineuses en force de bien. C'est-à-dire, véritablement, elle est rentrée, pénétrée l'intériorité d'Ahasvérosh, d'Assuérus, pour le faire transmuter. Mais c'est exactement ce qui va se passer au temps du Machiav Ben David. Exactement. Les forces d'Esther sont en train de revenir de nos jours. Bien entendu, Esther est cachée, c'est une femme pieuse, c'est une femme qui est, par définition, dans le secret. Donc elle est là, mais on la voit pas, on ne sait pas où elle est. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va rentrer, en fin de compte, dans l'intériorité de Sirius. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va rentrer dans ce monde-là, elle va rentrer très profondément dans le monde de la pourriture, dans le monde de la débauche, dans le monde de l'immoralité sexuelle et l'immoralité tout court, économique, sociale, politique, etc., pour pouvoir transmuter, sauver le monde et si vous voulez, distinguer, séparer les forces du mal des forces du bien. Elle va se battre non pas contre l'obscurité seulement, mais contre la source de l'obscurité qui est Amalek. Amalek étant le moteur de l'histoire du mal, si vous voulez. Et pour cela, elle passe de l'extériorité de ce monde dans l'intériorité de ce monde. Et pour cela, elle va se relier à Tzipora. Comme on l'a déjà dit, Tzipora va être un être absolument sublime, puisqu'elle va du paganisme. Son père était évidemment sorcier, roi de Midian, prince de Midian, et très très grand spécialiste des sciences occultes. Il connaissait les sciences médicales, etc. Il connaissait les plantes, il était extrêmement doué pour son temps, et elle va apprendre, n'est-ce pas, de cette vie avec son père, que en fait il y avait derrière tout ça un dieu qui était un dieu un seul maître d'histoire, et Moshe va l'épouser, parce que cette femme qui vient de l'obscurité la plus totale va pénétrer dans l'intériorité des mondes, de manière à ce que le monde puisse, grâce aux forces d'Esther, elle va faire transmuter le monde, mais quand je dis le monde, tous les mondes, puisque Tzipora va aller de l'autre côté, si vous voulez, du côté de Olam Haba, et va continuer à éclairer, grâce à quelle force? Les forces d'Esther. Les forces d'Esther vont pénétrer les forces de Tzipora dans ce monde-ci, dans tous les mondes, de manière à provoquer la délivrance finale. Parce qu'il est évident que dans tout le monde, n'est-ce pas, il y a les forces qui sont des forces de vie, qui sont des forces de lumière, mais elles ont été assombries, dit le Zohar, par tout simplement la faute d'Adam Harishon, la faute de Chava. Et donc, le Triat HaMetim, la résurrection des morts, c'est en fin de compte le fait que Tsipora va monter dans tous les mondes et va éclairer les mondes. Elle va en retirer les voiles de chaque monde. Et à partir de ce moment-là, on va s'apercevoir que dans ce monde, il y avait tous les autres mondes, mais d'une manière le plus claire possible, chacun, évidemment, son niveau de Neshama. Merci beaucoup.